Merci, merci Philippe, Dieu te bénisse. Bonjour à tous, ça va? C'est un beau dimanche de mois de mai, plus vieux, plus jeune aussi. Oui, mais c'est pas grave, ça va pas durer. Amen. Ce matin, on va lire Matthieu chapitre 5, verset 37, s'il vous plaît. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, verset 37. Encore une page. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Jésus, je te prie de bénir ces paroles afin que nous puissions tous prendre quelque chose. Que l'on soit marié, que l'on soit célibataire, que l'on soit en pleine santé ou que l'on soit malade, qu'on ait des problèmes ou pas en ce moment, que chacun puisse trouver quelque chose pour lui-même, mais aussi quelque chose pour pouvoir donner à d'autres. Merci Jésus. Amen. C'est vrai, vous ne venez pas écouter la parole seulement pour vous. Vous la prenez pour vous, pour aussi aller la donner ailleurs. C'est ça, c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Donc Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà. Si on fait une promesse, on s'y tient. S'il y a des difficultés qui viennent pendant le temps, parce que quand le temps passe, ben, il y a des problèmes qui viennent. Si on a dit oui, on tient. Amen. On montre que c'est nous les plus forts. Ceux qui lâchent, ben, le mot lâche, voilà. C'est ce que je vous dis. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Par là, il est en train de dire que ceux qui font une promesse et ne la tiennent pas finissent tôt ou tard par perdre l'estime d'eux-mêmes. Au début, quand on fait ce qu'on veut, qu'on se rebelle ou quoi que ce soit, on se sent très fort parce que quand on prend une décision, on se sent fort. Mais après, après, il y a les problèmes psychologiques qui commencent à venir, avec surtout quand ça commence à devenir un peu la solitude. Et ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est encore autre chose. Comme ils n'ont pas tenu leur promesse, la vie pour eux, est une fuite continuelle qu'ils sont obligés de justifier. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Ils utilisent beaucoup d'énergie en n'honorant pas leurs paroles, beaucoup plus que le fidèle n'en use pour tenir ses engagements. Parce que pour tenir nos engagements, il faut user d'énergie. Il ne suffit pas simplement de se laisser aller. Non, il faut user d'énergie. Il y a quelque chose à faire pour tenir son engagement. Hein? Il y a des choses qui sont des prises de position, des paroles à dire, des actes à poser. Le fidèle, en fait, il est comme tous les gens normaux. Il est désireux d'agir. Les gens normaux sont désireux d'agir. Les gens normaux sont désireux de trouver des solutions. Les gens normaux sont désireux de prendre des mesures. Tout le monde est toujours en train de faire des projets. Il n'y a pas de mal à ça. Mais le fidèle dont je parle ce matin, c'est le fidèle à Dieu. Celui qui est fidèle à Dieu et à son Église, qui tient ses engagements envers Jésus-Christ et son Église qu'il est en train de construire. Il est fidèle et ça tranquillise son cœur. Alors, quand on se tranquillise, quand on est tranquille, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'arrête et puis on adore Dieu. Parce que l'adoration, ça fait partie de la vie normale du chrétien. Je vous parle d'adoration. L'adoration, on se tient silencieux devant Dieu, devant l'univers. Hein, sortez une fois dans le parc quand il ne pleut pas, évidemment. Mais... Et puis la nuit, et puis regardez la Voie lactée. Regardez comme c'est beau. Ne dites rien. Simplement adorez Dieu. Celui qui adore, il se met à genoux, corps, âme, esprit. Il ne demande rien. Il y a pas... Quand on adore, on ne demande rien. On ne pense pas et même on ne remercie pas. On adore. On adore. On vit simplement l'amour silencieux qui nous enveloppe. On en est conscient. Corps, âme, esprit, on adore. Dans ces moments-là, moi, ça m'arrive d'avoir des larmes qui coulent de mes yeux. Mais ce n'est pas des larmes ni de tristesse ni de joie. c'est des larmes qui sont un don de Dieu pour me nettoyer. Est-ce que vous savez ça? Les larmes lavent l'âme. Je vous conseille, si ça vous arrive, de vous laisser aller à pleurer comme un enfant. Si vous avez déjà regardé un enfant qui pleure, parce que pleurer, ça fait partie de la vie. On dit, un homme, ça pleure pas. C'est faux. C'est faux. C'est même très bête de dire ça aux enfants, un homme, ça pleure pas. En fait, la deuxième chose que fait l'enfant, après avoir pris son souffle, quand il sort du sein de sa mère, ben, c'est de pleurer. Alors, pleurer. Crier, même s'il faut. Sangloter aussi bruyamment que vous le voulez. Faites-le. C'est ainsi que les enfants pleurent. Et Jésus nous dit qu'il faut qu'on redevienne des enfants, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'ils pleurent parce que eux, ils savent instinctivement, ils n'ont même pas lu ça dans les livres, comment rapidement soulager leur cœur. Et puis, quand vous aurez, comme moi, le plaisir d'avoir des petits-enfants, vous allez voir comment ils font quand ils arrêtent de pleurer. Vous avez déjà vu un enfant quand il arrête de pleurer? Il est défiguré, rouge, il pleure, il a la morve au nez, il crie, c'est terrible. Et puis tout à coup, il s'arrête, quelque chose l'a distrait. Vous avez vu ça? Il s'arrête tout d'un coup, quelque chose a attiré son attention, alors il cesse de pleurer, comme ça, très rapidement, très rapidement. Et c'est ce qui vous arrivera si seulement vous pleurez comme un enfant. Je vous exhorte à pleurer comme un enfant, pas à pleurnicher. Vous voyez, c'est dommage quand on a des problèmes de pleurnicher dessus, parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de la parole de Dieu qui dit qu'il faut être comme des enfants. Il faut pleurer un bon coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça lave l'âme, ça lave l'âme. Vous savez, votre corps, notre corps ne nous appartient pas, il est à Dieu, il l'a racheté à un grand prix, au prix de son sang. Et il a mis dans notre corps des glandes qui s'appellent les glandes lacrymales. Ça fait partie de notre corps. Il ne faut pas se retenir de pleurer. Pleurez un bon coup, mais s'il vous plaît, pleurez comme un enfant. Ça sera la preuve que vous respectez votre corps, votre âme et votre esprit. C'est bizarre hein, ce que je vous dis ce matin. Vous savez, il y a tellement de pression extérieure, tellement de choses. Votre corps, il encaisse des chocs terribles. Alors, il mérite votre tendresse. Faites donc un meilleur usage de votre corps, de ce corps que Dieu vous a prêté. Alors, bien sûr, notre corps nous sert à lutter pour atteindre nos buts. Notre corps nous sert pour aller d'ici là-bas, pour faire ceci. Mais n'oubliez pas de lui donner du plaisir aussi. On lui demande beaucoup à notre corps. On lui en demande beaucoup. Hein, par exemple, avec les quiches Lorraine, que c'était des tartes aux poireaux que et Mélodie nous a fait. On lui a demandé beaucoup à notre corps. Hein. J'en ai pris 4 fois, Lida. C'était tellement bon. Et vous vous rendez compte, tout ce qu'on demande à notre corps, il encaisse tout ça. Tout ça, ça vient de l'extérieur. Hein. Mais quand même, il faut lui donner du plaisir. Il faut lui donner du plaisir. Ce n'est pas un péché d'être heureux et de sentir qu'on est heureux. Il ne faut pas culpabiliser parce que vous faites un excellent repas. Il ne faut pas culpabiliser parce que vous avez fait un excès de sommeil. Traînez au lit, faites-vous plaisir. Si vous aimez ça, si vous aimez manger une bonne rondelle de saucisson ou même 2 ou 3 ou 10, allez-y, faites-le. Pas tout le temps parce que là, ça, vous allez faire travailler votre corps inutilement, mais faites plaisir aussi à votre corps. Ça crée des sensations qui sont agréables. Ces petits plaisirs, ce sont les plus grands stimulants. Ça passe par notre corps. C'est tellement plus facile de faire plaisir à notre corps que de faire plaisir à notre esprit, parce que notre esprit, des fois, on ne sait pas trop comment le prendre. Mais quand on fait plaisir à notre corps, l'esprit y suit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dieu nous a donné un corps, soignez-le. Laissez-le pleurer dans l'adoration et donnez-lui des petits plaisirs. Prenez-en soin. Souvenez-vous que là, nous sommes en ce moment dans l'auberge. Dans l'auberge où le bon samaritain nous a conduits. On était des blessés de la vie, tous autant que nous sommes, et nous sommes dans l'auberge du Seigneur, et puis là, nous sommes avec l'aubergiste, et le bon samaritain a laissé de quoi faire pour qu'on manque de rien. Donc ça va, on manque de rien, mais le bon samaritain, il est parti, il n'est plus là, le bon samaritain. Il nous laisse faire avec l'aubergiste, hein, et puis nous sommes là, et puis de temps en temps, le temps passant, il y a des accidents, comme par exemple cette nuit, notre chauffe-eau qui a commencé à fuir, c'est un accident, ça aurait pu être plus grave, il peut y arriver un incendie, ou je ne sais pas, quelque chose de grave dans l'auberge, et voilà que ça fait de la peine. Mais ce sont des choses qui arrivent, ce sont les impondérables de la vie. Supposons que l'auberge où nous sommes brûle. À quoi ça va servir de se plaindre? Oh, on aurait dû plus faire attention. Oh, c'est quand même malheureux. Oh, c'est triste. On aurait dû plus prendre soin de l'auberge. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire le bon samaritain quand il va revenir? Et puis, mais tout ça, c'est angoissant. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le mieux, c'est de réparer l'auberge, d'enlever déjà tout ce qui est irrécupérable, sauver les meubles, comme on dit. Réparer l'auberge, et quand le bon samaritain reviendra, qu'est-ce qu'il dira? Vous savez, il est parti. La Bible nous dit, il est parti, puis quand il reviendra, s'il y a encore quelque chose à payer en plus, il le fera. Mais en attendant, il est parti, il nous laisse, on gère. Il dira, oh, dis donc, c'est merveilleux, elle a l'air encore plus neuve que quand je suis parti. Vous comprenez? Alors on lui avouera tout misérable que l'auberge dans laquelle il nous avait laissé, ben on n'a pas pris soin vraiment, puis ça a pris feu, puis bon, voilà, ça a été détruit, puis on l'a réparé. Puis le bon samaritain dit, je comprends rien de ce que vous me racontez, moi je vois tout simplement que tout est beau, et puis je vois ici des hommes et des femmes qui ont foi dans la vie, voilà ce que je vois. Ces petites histoires, tous ces machins, tous ces trucs. C'est le but, c'est la fin qui est important. Et comment on arrive à la fin? Ce n'est pas en se plaignant, mais c'est en réparant ce qui peut l'être. Alors je vois que Dieu n'est pas un Dieu colérique, ce n'est pas un Dieu vengeur, il n'est pas parti en ayant toujours un œil sur nous et avec un bâton dans la main pour nous taper dessus. Rappelez-vous de ce que frère Osborne nous avait enseigné, Jésus est parti, il s'est assis sur le trône et puis il nous regarde faire. Voilà, puis c'est tout, il n'est pas... Puis il n'est pas surpris de voir ce qu'on fait, il n'est pas étonné, il connaît nos cœurs, il sait tous les cœurs, il connaît tout, il sait pourquoi, comment, tout ça. Pour lui, ce n'est pas des grosses émotions qui lui arrivent comme à nous, qui sommes enfermés dans le temps et dans notre corps. Là, lui, c'est tout à fait différent. Il est parti et ceux qui ont perdu ce qu'ils avaient, qui leur avait été donné par Dieu, eh bien, je vous le dis, mes frères et sœurs sont dans une meilleure position que la plupart des gens. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont perdu, perdu ce que Dieu leur avait donné, ils ont toutes les chances de gagner quelque chose de mieux. Non? À moins qu'on reste assis sur notre tas de cendres. Vous voulez rester assis sur votre tas de cendres, vous? À pleurnicher? Non. Qui sommes-nous? On l'a chanté des milliers de fois. Des pèlerins. On est des pèlerins sur cette terre. Alors, voilà, qu'est-ce que ça fait un pèlerin? Ben, ça bouge tout le temps, hein, un pèlerin. Mon père, qui ne connaissait pas Dieu, il disait toujours, « Moi, je travaille dur pour que mes enfants aient quelque chose de moi, un souvenir de moi quand je serai mort. Et ils auront la maison de Chèvre, ils auront la maison de Riez, ils s'en souviendront. » Et c'est vrai que mon frère et moi, on s'en souvient. Et on fait tout ce qu'il faut pour que plein de gens s'en souviennent. Par exemple, ici, dans ce château dans lequel vous vivez, vous et les dissidents, ça fait 25 ans qu'on bénéficie de ce que mon père a fait de son travail. De ses nuits de travail, de ses jours de travail, il travaillait nuit et jour, puisque c'est en grande partie grâce à ce qu'il m'a laissé comme héritage qu'on a pu acheter ce château. Voilà, c'est mon père. Honore ton père et ta mère, hein, et tu seras heureux dans le pays que le Seigneur te donne. Mais lui, de quoi est-ce qu'il a profité? Ah ben de rien, il est mort à 49 ans. Ça laisse songeur. Je pensais à tout ça, et... Vous savez que, enfin peut-être ceux qui sont sur Internet ne le savent pas, mais nous ici, on est prévoyants, on a fait nos testaments, on a mis tout en ordre, tout est en ordre. Et Michou et moi, on laisse des choses à ma fille, à la famille, à nos petits-enfants, ils ne seront pas sans rien. Et puis aussi à chaque actionnaire de notre petite communauté. Et quand on regarde notre testament avec Michou, on a rigolé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ni Michou ni moi, on figurait dedans. Ben évidemment, puisque c'est un testament, ça veut dire qu'il sera ouvert quand on sera mort. avant la fin de l'été. Donc, j'ai décidé, voyant que je n'étais pas sur mon testament, de me traiter beaucoup plus généreusement maintenant. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? Je vais me traiter beaucoup plus généreusement maintenant. J'ai assez donné à des filles qui se faisaient droguer, qui se droguaient dans tous les coins, ou qui se faisaient violer partout, ou n'importe quoi. Ça suffit maintenant, on est vieux, la Michou, on va prendre soin de nous. Et je vous exhorte, vous les frères et sœurs fidèles qui sommes avec nous, faites de même, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Je vois Dominique, il se signe de la tête. Tu sais ce que ça veut dire, mon frère Dominique? Maintenant que nous sommes juste là entre nous, eh ben, ce voyage qu'on a fait, toi et moi, on va le refaire dans 2 ans. Et puis, on va pas discuter à faire gna 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 gna, c'est cher et des bêtises comme ça d'incrédulité. On va le faire. Qui est-ce qui est d'accord? On va tous y aller. On va aller aux États-Unis et on va visiter toutes ces belles choses qu'on a visitées avec Dominique et que j'ai visitées aussi avec Michou. On va y aller. On s'en fout si c'est cher. On est en train de devenir vieux. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. C'est bien dommage. Oui ou non? On va se donner du bon temps. On va se faire plaisir à nous aussi. Pas seulement plaisir aux autres qui sont finalement toujours plus ou moins ingrats. Et qui se rappellent de rien, hein. Faites de même, accordez-vous quelques plaisirs, des voyages en famille. En attendant les États-Unis, vous pouvez déjà faire ça. Des voyages en famille. Je suis tellement content de voir comment Stéphane prend soin de son papa, et vous tous aussi. C'est tellement merveilleux. Je connais tellement de serviteurs de Dieu qui voyagent dans le monde entier, puis qui n'emmènent jamais leur famille avec eux. Et là, tout à l'heure, je parlais avec Nicolas, il me dit, je suis à Cleveland. Je dis, c'est beau? Il me dit, j'en sais rien. Il ne sait pas si Cleveland, c'est beau. J'ai dit, à New York, tu étais au Central Park? Il dit, c'est quoi Central Park? J'ai dit, tu n'as pas été à Central Park? C'est là qu'habitait James Dean. Ah, il ne faut pas dire James Dean, c'est vrai. C'est Akshtu Paglop. Mais c'est tellement beau. Il y a des tellement beaux endroits. À Tokyo, même Ouagadougou. Moi, quand je vais à Ouagadougou, je prends toujours un jour pour aller faire une tournée dans Ouagadougou. On se fait plaisir. Les prédicateurs, ils ne voient rien d'autre que l'aéroport, le taxi qui les emmène de l'aéroport à l'hôtel. Ils voient l'hôtel, ils voient l'église où ils prêchent. Le micro qui est devant eux, voilà, c'est tout ce qu'ils voient. Et puis ils disent, ah oui, j'ai prêché dans tant de pays, mais ils n'ont rien vu du tout. Juste, c'est ça, rien que ça. Et pendant ce temps-là, leurs femmes vieillissent à la maison. Pendant ce temps-là, leurs enfants grandissent. D'ailleurs, beaucoup d'enfants de pasteurs et de prophètes sont athées. Pourquoi? Parce que leur prophète de père, ou pasteur de père, ou évangéliste de père, n'a jamais pensé à leur faire plaisir à eux. C'est grave. Une journée, une semaine en famille, au bord du lac, en Suisse, ou au Canada, ou à Yellowstone. Tiens, ça, on va le faire, Dominique, on n'a pas fait Yellowstone. Avant que ça pète là-bas. Sans prêcher, juste être au bord du lac avec une canne à pêche. Sans prêcher. Juste pour le plaisir. Juste pour être avec ceux qu'on aime. Juste pour être avec la femme qui nous supporte. Juste pour être avec la femme qui nous aime et qui nous a donné toute sa vie, qui est fidèle et qui est gentille et qui nous repasse nos culottes. Ça ne vaut pas la peine de faire de temps en temps un arrêt et de se consacrer uniquement à sa famille. Ces gens-là n'ont pas une vie normale, je vous le dis. Ils disent qu'ils travaillent pour Dieu et ils perdent leurs enfants. Arrivés à 14-15 ans, leurs enfants ne veulent même plus aller écouter leur père qui prêche. Pourquoi? Oh, ils ont gagné des milliers d'âmes pour Jésus, mais ils ont perdu leur famille parce qu'ils ont manqué d'équilibre. Souvent, ces chrétiens-là, ils ont peur du « qu'en dira-t-on ? » Oui, mais voilà, mais si je commence à aller faire les boutiques à New York et tout, on va dire que je suis charnel et tout. On s'en fout de ce que les chrétiens pensent. C'est la famille que Dieu vous a donné une famille. Prenez soin de votre famille. Je déteste faire à New York, j'aime pas faire les boutiques. On a fait ça une fois avec Catherine Croza et Michou. Mon Dieu, que je me suis embêté d'aller. Mais ça leur faisait plaisir. Alors je suis vide dans tous ces immenses magasins. Ça leur faisait tellement plaisir. Moi, j'en garde un souvenir épouvantable, sauf que j'ai fait plaisir à ma femme. Vous voyez la chose? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je pense que les chrétiens quand même peuvent comprendre ça. Et puis à force d'avoir peur du qu'en dira-t-on, eh bien voilà qu'ils ont ils commencent à avoir... ils se paralysent par une autocritique. Dieu vous demande de prendre soin de votre famille. Votre famille vous a été confiée comme votre corps. Votre corps vous a été confié. Vous devez en prendre soin. Votre corps, il a besoin de détente. Il a besoin de saint plaisir. Eh bien, votre famille aussi. Et Félicie aussi. Vous avez besoin, votre famille a besoin. Demandez-leur à votre famille, demandez-leur à leurs gamins, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Parce qu'ils n'ont sans doute pas les mêmes plaisirs que vous. Ils n'ont sans doute pas les mêmes plaisirs que vous. Demandez-leur ce qui leur fait plaisir à eux, puis faites-le avec eux. Si vous ne le faites pas, vous volez Dieu. Vous volez Dieu qui vous a confié une famille. Vous êtes dans l'auberge, et si elle a été brûlée, c'est-à-dire si votre famille est un peu bancale, etc., etc., réparez-la. Votre famille a des problèmes, faites tout pour la réparer. Votre corps a des problèmes, faites tout pour le réparer. Prenez contact avec Philippe Navez, il a des produits extraordinaires pour la santé du corps. Il faut s'en occuper, il faut s'en occuper. Pas le laisser comme ça, décrépitude. Et quand le bon samaritain reviendra, ben il sera content et il sera fier de vous. Quelque chose est abîmé, réparez-le. Regardez Pierre. Si Pierre n'avait pas éprouvé la douleur du reniement, il a renié son maître. S'il n'avait pas éprouvé ça, Dieu ne l'aurait jamais confié les clés. Si le fils prodigue n'avait pas tout gâché, il n'aurait pas été reçu et fêté par son père comme il l'a été. Pensez pas que c'est foutu. Pensez pas que c'est fichu. Ah oui, mais Pierre, c'est son histoire. Moi, mon histoire, elle est différente. C'est un cas. Ah bon? Alors à quoi ça sert que tu viennes écouter la parole de Dieu? À quoi ça sert que toutes ces histoires soient racontées là, si ce n'est pas pour te montrer un exemple et pour t'inspirer à faire comme ces gens de foi ont fait? Jésus te tend la main, tu dis, moi, je serai avec toi pour t'aider à réparer. Et puis si c'est pas moi, je t'enverrai un ange. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas parler des anges. Si on parle des anges, c'est le culte des anges et c'est démoniaque. Non, mais on en est arrivé là dans l'Église aujourd'hui. C'est terrible quand même. Hein? Les anges sont là pour vous aider. Alors Jésus est le chemin, n'est-ce pas la vérité? Alors marche sur ce chemin et puis vois comment les autres y ont marché. Surtout, bon, tu peux prendre Judas, mais ce n'est pas le bon exemple, hein. Prends les bons exemples, regarde ceux qui ont bien marché avec Jésus, qui ont eu aussi leurs problèmes, leur auberge qui a brûlé, et leurs problèmes. Tout le monde a eu des problèmes, mais regarde comment ont marché ceux qui ont réussi. Alors, très orgueilleusement, dans ma vie, j'ai appris des choses, et puis je les montre, j'en parle librement. J'ai même écrit des bouquins pour expliquer. Hein. Dans ma vie, j'ai appris que sur beaucoup de choses, il y a un sceau qui est posé. Et sur ce sceau, c'est écrit « Vous ne comprendrez ma valeur que lorsque vous m'aurez perdu et retrouvé. » Ça ne sert à rien de vouloir rendre le chemin plus court en évitant les problèmes. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien de vouloir rendre le chemin moins austère qu'il n'est. Il y a des choses où c'est... voilà. Ça ne sert à rien non plus de le rendre plus besogneux qu'il n'est, ce chemin. Dieu nous demande juste de ne pas agir en faisant preuve d'irresponsabilité. Et vous êtes responsable, un, de votre corps, deux, de votre famille. Avant tout. Avant tout. Eh oui. Qu'est-ce que je cherche à dire là? Je cherche à vous dire, soyez vivants. Soyez vivants. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous devez rester tranquille, puis juste aller distribuer des tracts de temps en temps au supermarché. Puis... mais soyez vivants. Secouez vos bras, bougez, sautez, faites du bruit, riez, parlez aux autres. Parce que ça, c'est l'opposé de la mort. Les morts, ils font pas tout ça. Mourir, c'est rester à tout jamais dans la même position. Ne restez pas toujours dans la même position. Le lundi, je fais ça. Le mardi, je fais ça. Le mercredi, je fais... Mais bouleversez tout ça, faites autre chose. Faites autrement. Décidez tout d'un coup, sur un coup de tête, de faire quelque chose qui va amuser votre famille, qui va vous... Ça vous a pas amusé l'autre jour, les enfants, quand on est sortis, là, je vous ai dit, allez, on sort, on va. Puis on est allé, puis c'était rigolo, non? C'était pas rigolo? Ben, bien sûr. Moi, j'ai pensé qu'on en avait pour une heure ou deux. On est parti l'après-midi à 1h10 et on est rentré à 22h10. Eh ben, mes enfants, on s'est tellement amusé qu'on a oublié de manger, dis donc. Heureusement, Mélodie avait préparé des tartines. Eh bien, ça fait plaisir et ça fera des souvenirs. Et quand je serai mort, les gamins diront, le papy, il était génial. J'aurai au moins laissé un souvenir à 2-3 personnes. Mourir, c'est rester à tout jamais dans la même position. Si vous êtes trop tranquille, si vous êtes déjà un peu mort. Vous n'êtes déjà plus tout à fait en vie. Si votre corps ne bouge pas, il s'affaiblit, il grossit, il s'empâte et il tombe malade. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je suis content, j'ai bien maigri là en ce moment. Parce que j'ai encore ce matin, là, ce pantalon, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Ben, dis donc, je le mets et puis je vais à la salle de bain et il se retrouve sur mes genoux, dis donc. Ah oui, je suis obligé de mettre une ceinture pour qu'il tienne maintenant. Ben, gloire à Dieu, c'est bien, ça c'est un bon signe. Parce que quand on commence à s'empâter, à trop bouffer, c'est pas bon. Il faut bien manger, mais il faut pas trop manger. Si votre famille ne vous voit pas bouger et vivre avec elle, eh ben, c'est comme si vous étiez déjà un peu mort pour elle. Il faut faire les choses avec eux. Prenez du temps pour parler avec vos enfants. Priez avec eux, mais ça suffit pas. Il y en a qui font même pas ça. Mais faut prier avec eux, c'est important. Puis ensuite, écoutez-les. Et puis, jouez avec eux. Vous savez, sur la terre, votre famille, c'est ce que vous avez de plus précieux après votre corps. Parce que sans votre corps, votre famille, ben bon. Mais vous avez un corps qui vous a été prêté, prenez-en soin, afin de pouvoir bénir votre famille en premier. Vous, les parents, vous êtes précieux pour vos enfants, vous devez les écouter. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous aimez les histoires, les enfants? Ben, c'est une histoire vraie, c'est en Afrique. Vous savez, les rois en Afrique, c'est pas comme les rois ici, c'est ce qu'on pourrait appeler les préfets. Hein, c'est comme ça, hein, Robert, les rois. C'est des gens qui ont une autorité sur une région, enfin voilà. Et en Afrique, il y avait un roi qui avait mal au dos et il a entendu parler de mon ministère, il a voulu que j'aille prier pour lui. Donc, je suis allé, mais moi, je sais que souvent, le mal de dos, ça vient d'une accumulation de problèmes, ça vient d'angoisse, ça vient de stress, ça vient de mauvaise position du corps parce qu'on se sent mal psychiquement, alors on se tient mal, etc., etc. Alors, j'ai posé des questions pour savoir au sujet de sa vie, par exemple, quelles relations il avait avec son peuple, quels étaient les tourments de son règne, Et au bout d'un moment, il s'est levé, visiblement très irrité, et il m'a dit « Je ne veux pas parler de ces choses. Je veux que vous m'imposiez les mains et que vous me donniez la guérison, c'est tout. Ou alors, allez me chercher quelqu'un qui me soignera sans me poser toutes ces questions. » Oh. Bon. Alors, je suis sorti de là, et puis... Bon. Et puis, j'ai cherché en ville s'il y avait un tel homme. Et j'ai trouvé un tel homme. Alors, je suis retourné vers le roi, accompagné de cet homme que j'avais trouvé en ville. Et j'ai dit, bonjour, monsieur le roi. Voilà la personne qu'il vous faut. C'est un vétérinaire. Il n'a pas du tout l'habitude de discuter avec ses patients. Et prends ça dans tes dents. Il a ri. Mais il a ri, il a compris. Vous êtes un papa. Vous êtes une maman. Vous êtes une grand-mère. Vous êtes un grand-père. Vous êtes un oncle. Vous êtes une tante. Vous êtes quelqu'un... Pensez-vous que ce soit juste de donner à votre corps juste des médicaments? Pensez-vous pas que ce serait bien que vous l'écoutiez, que vous écoutiez ce que votre corps a à vous dire? Il y a des gens qui savent ces sciences-là qui connaissent et qui peuvent parler avec vous. Pensez-vous que ce soit juste de donner à votre famille juste un toit et de la nourriture? Puis après, vous dites, oh, après tout ce que j'ai fait pour eux, t'as fait quoi? Tu leur as donné à bouffer des chips, tu leur as donné un ordinateur pour qu'ils te foutent la paix. T'as fait quoi? Prenez le temps de parler, d'écouter votre famille. Êtes-vous des parents ou est-ce que vous êtes des vétérinaires? Dieu vous a donné un corps, il vous a donné aussi une famille. De vous en occuper, il faut que ça soit votre ministère numéro un. D'abord, la Bible dit, celui qui n'est pas capable de s'occuper de sa famille, il est indigne du ministère. D'en prendre soin, ça doit être la chose numéro un, votre ministère numéro un. Alors, je connais un pasteur qui a dit, avec mon épouse, tout va bien, car on ne parle jamais de choses qui fâchent. C'est pas dans l'ordre des choses normales. C'est pas dans l'ordre des choses normales. Pardon, l'apôtre Paul disait, excusez-moi, pardonnez-moi, je me mets en avant. Permettez-moi ce petit brin de folie. Mais est-ce que vous avez vu comment j'ai fait avec ma fille? Comment j'ai fait avec mes petits-enfants et comment je fais encore avec eux? De même, avez-vous vu comment je fais même avec mon chien? Dieu nous a confié des animaux de compagnie. Il avait une bonne raison pour le faire. Ah, évidemment, passer sa vie à décortiquer les prophéties d'Ésaïe pour les mettre au goût du jour et puis faire des calculs de 7 semaines plus 7 jours plus 49 machins de jubilé et de lune rouge avec un raton laveur, tout ça, c'est tellement formidable, mais c'est extraordinaire. Mais c'est pas la vie. C'est pas la vie. Dieu connaît les siens. Il les a prédestinés. Si vous êtes prédestiné à l'enlèvement, vous serez enlevé. Si vous n'êtes pas prédestiné à l'enlèvement, vous ne serez pas enlevé. C'est tôt. Mais il faut quand même qu'on se prépare. Ben oui, ben se préparer, c'est déjà prendre soin de votre corps que Dieu vous a donné et de votre famille que Dieu vous a donné. Déjà, si vous faites ça, plus besoin de vous occuper des 7 semaines et des lunes rouges et des vaches rousses et puis de je ne sais quelle comète, machin, patin, couffin, de Paco Rabanne à la noix de coco. Et de dire que l'épouse va être enlevée, je ne sais plus quoi, au mois de septembre de cette année. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça fait depuis 1968 que je vois ce troupeau de personnes déséquilibrées qui n'arrêtent pas de nous pomper l'air avec des âneries, prenant des prophéties et faisant une espèce de soupe avec dans la Bible. C'est pas ça la vie! C'est pas ça la vie! Regarde tes enfants, regarde ta femme, occupe-toi d'eux, c'est déjà ça, déjà ça. Puis ensuite, occupe-toi de l'Église. Je prie vraiment pour que le peuple de Dieu revienne à son bon sens, parce qu'il a perdu son bon sens. Mais vous savez quoi? Je vais pas en faire une maladie. Je l'ai dit une fois, j'ai dit deux fois, j'ai dit 10 fois, je dirai plus. Ceux qui veulent pas entendre, même Dieu peut pas les convaincre, il y a rien à faire. Ils sont bouchés à l'aimerie. Tiens, voilà que j'ai cherché qu'est-ce que c'est que l'aimerie. Parce que depuis le temps que je dis ça, c'est une expression qu'on a en Suisse. Boucher à l'aimerie. Mais je ne sais même pas ce que c'est l'aimerie. C'est quoi l'aimerie? Ça doit être un truc qui bouche, hein? Je ne sais pas, moi. Il faudrait que j'aille regarder. Mais en tout cas, ils sont bouchés. Ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien comprendre. C'est eux qui ont toujours raison. Vous avez des familles entières de « j'ai raison ». Ils ont tous raison, tous. Tu peux dire n'importe quoi. Ah non, non, j'ai raison. Bon, ben, tu as raison. Moi, je suis convaincu simplement par d'une chose quand je regarde le fruit de la chose. Ah oui, c'est peut-être beaucoup moins spirituel que d'avoir une révélation. Oh, j'ai la révélation, mon frère, que tes péchés te sont tous pardonnés. Quelle révélation, c'est écrit dans la Bible. Ah oui, mais les gnagnous, ça leur fait un plaisir fou, ça, quand ils entendent ça. Ils sont tellement pleins de péchés, puis d'un coup, ils voient un serviteur de Dieu qui arrive et dit Dieu m'a montré que tes péchés sont pardonnés. C'est des gnagnouteries. Moi, je regarde l'arbre à son fruit. Et c'est pas spirituel, parce que même un païen, il fait comme ça. Quand un paysan païen, un païen de chez les païens, Quand il voit qu'il y a un bon fruit, c'est que c'est un bon arbre, c'est tout. Donc voilà, montre-moi tes actes, montre-moi ta famille, montre-moi tes enfants, et je te montrerai les miens. Ah ! À la fin. Amen ! Paul, alors là, c'est encore un modèle pour beaucoup de choses. Il était accusé, regardez ce qu'il disait. Il disait, on me regarde comme un imposteur, on me regarde comme un inconnu, on me regarde comme un mourant, on me regarde comme un châtié, comme un attristé, comme un pauvre, bien que j'en ai enrichi plusieurs, comme n'ayant rien. Il était tout le temps. C'était qui ces gens? L'histoire se répète. C'était qui accusait ce cher apôtre Paul? Qui avait ses défauts. Bien sûr qu'il avait ses défauts. Bien sûr, ça transpire dans ses lettres. On voit bien les défauts qu'il avait, l'apôtre Paul. Il ne peut pas être marrant à vivre, hein. Mais qui c'est qui l'accusait? Ben, on ne sait pas. On ne connaît plus leur nom. Ils sont partis dans l'ombre de l'oubli historique, ces gens-là. Ils sont juste servis à embêter l'apôtre Paul, afin que l'apôtre Paul puisse s'accrocher à son Dieu et aller en avant et encore plus loin. Amen. Merci Seigneur pour les casse-pieds. Par contre, on se souvient de l'apôtre Paul. Est-ce qu'on se souviendra de vous? Qu'est-ce que vous aurez laissé derrière vous? Moi, je me souviens de mon père, Charles Genton. Il était casse-pied des moments. Mais il n'y a que les casse-pieds qui font quelque chose. En général, les gens qui sont mous, vous savez, ils font rien, quoi. Voilà, ils sont gris comme les murs. Voilà. Qu'est-ce que vous laisserez derrière vous? Derrière vous, après vous, qu'est-ce que vous laisserez? Une famille sauvée? Même mon père est sauvé maintenant. Des églises construites un peu partout, des gens qui rendront témoignage et qui diront « j'ai été guéri par l'imposition de ses mains ». De quoi est-ce qu'on parlera à votre sujet, après votre mort? De quoi on parlera? Du temps qu'il a fait au cimetière? Alors de grâce, veillez sur votre corps. Veillez sur votre propre famille. Veillez sur le corps de vos enfants. Faites attention. Parce que comme le dit la Sainte Écriture, s'il y a des parents qui ont des enfants qui ne leur enseignent pas à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit par imposition des mains, le péché sera sur la tête des parents. Amen. Et si quelqu'un fait avec son corps ce qu'il veut, pensant qu'il est à lui, eh bien, il se trompe, parce que votre corps, il est à Dieu. Il vous l'a juste prêté. Aimez-le, soyez gentil avec lui, comme vous êtes gentil avec votre famille. Ces deux choses sont très visibles. Très visibles. C'est un fruit qu'on voit tout de suite. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus, je te prie que non seulement pour mes frères et sœurs ici, mais aussi pour tous ceux qui vont écouter, et qui ont besoin d'être repris, eh bien, cela puisse leur faire du bien. Mais que ceux qui ont écouté aussi sur Internet puissent se saisir de ce message pour le faire écouter à des familles de chrétiens un petit peu trop spirituelles, flap-flap, mais pas assez pratiques. Je te demande, mon Dieu, que cela serve à quelque chose pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.